Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les traîtres.
Salut Guillaume. Qu'est-ce que tu fais là, vendredi déjà?
Alors comme ça, vous voulez vous débarrasser de moi,
pas
c'est
du
ça
tout, qu'est-ce qui te fait dire ça?
Ça vous amuse de casser du sucre sur mon dos?
Non.
Ouais. Faites pas les malins, je vous ai entendu avec les autres là toute la semaine.
Non mais en fait Guillaume, c'est...
Alors, on a lancé une grande consultation des chroniqueurs pour améliorer la qualité de l'émission.
Améliorer la qualité ou dégraisser? Parce que vous faites du management de droite, j'ai l'impression.
Non mais on voulait bien faire, tout en optimisant.
Donc c'est peut-être de droite.
Oui, il me semble, oui.
Ouais, alors on s'est dit que c'était intéressant de lancer un grand débat.
C'est macroniste, donc c'est de droite.
Oui, c'est de droite. Alors vous êtes en train de massacrer le service public de la radio. Voilà ce que vous faites, c'est
Guillaume,
tout.
Non, Guillaume, le prends pas comme ça, s'il te
plaît. Me faire ça à moi, là, qui suis là depuis le début, tous les jours. Vous croyez que ça m'amuse d'aller sur les marchés, de faire passer les Français pour des cons, pour faire rire des Belges?
Pardon, Guillaume, mais non, on n'a jamais voulu te virer.
Non, c'est Pablo.
Et Constance.
Thomas Croisière.
Et Clara, et aussi Juliette.
Vous savez quoi, Et c'est le dernier jour des best-of. Lundi, pour la rentrée, continuez sans moi.
Mais Guillaume,
Mais si on t'emmènera manger des frites à la cantine.
On te laissera aller au meeting de Laurent Wauquiez.
Et au salon du préservatif connecté. On t'aime, Guillaume.
Bon, je vais voir alors. Merci papa, merci maman.
Bonjour la France Inter, vous écoutez le cinquième et dernier épisode des Vacances de l'Humour où les Négresses Vertes viennent fêter leurs 30 ans. Eux dont la carrière a démarré à Londres, ils nous parleront de l'hystérie des débats à propos du Brexit. Qu'est-ce que la colère made in Angleterre? Et puis en France, les riches se maquent entre eux. Ça s'appelle l'endogamie et ça risque de s'aggraver si les sites de rencontres utilisent des algorithmes. Ensuite, nous recevrons l'un de nos nouveaux héros de la pensée, Yves Citon, intellectuel suisse qui nous a passionnés. Sa théorie, c'est par exemple que, conditionné par la bagnole, nous voyons le monde à travers le pare-brise. Et on se souviendra du mauvais timing de la rénovation de la salle des fêtes de l'Élysée au sommet de la crise des Gilets jaunes, ce qui a prouvé dans ce cas que la transparence peut avoir du bon, bien qu'elle soit souvent tyrannique. Alex,
il y a la réponse dans la thématique.
Changera
plus. Allez, l'équipe. La chronique musicale de Mélanie Bauer, évidemment, elle traitera la carrière des Négresses Vertes qui sont plus si vertes que ça, puisque 30 ans de carrière. La chronique de Christine Gonzalez, c'était une lettre aux Français qui nous avait scotché, lettre qui vient de l'au-delà. Bien sûr, on connaît Christine. Chronique littéraire avec Juliette Arnaud, les dames de Kimoto, de Sawako à Ryoshi. J'ai l'impression de travailler sur France Culture. Et on terminera par, évidemment, c'est vendredi, donc aujourd'hui c'est normal, Frédéric Fromet. Il a voulu rendre hommage aussi aux Négresses Vertes. Le procès des mouches, la mouche. Voilà, ça vous donne une petite idée.
Vous écoutez bien France Inter et voici le retour des Négresses Vertes.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Stéphane et Polo, les Négresses Vertes.
C'est la délégation, c'est pas tous
vous n'êtes pas tous là, évidemment. Il y a effectivement une réédition. Il y a 3 CD, un DVD, il y a un live à Reykjavik. Je crois qu'il y a un live à Manchester aussi, 89. Il y a l'album là qui fête ses 30 ans avec des phases B, des remixes, des reprises, famille nombreuse. Et puis un très très beau livre. Voilà, alors moi j'ai réécouté votre disque. Je voulais voir ma première réaction, outre un petit peu de nostalgie, ça faut le dire. Je me suis dit bon sang, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde aujourd'hui, nom de Dieu. Alors,
je crois que c'est un compliment
déguisé. Vous êtes un peu cruel pour le rock français actuel, mais vous avez fait un retour notamment très remarqué aux Vieilles Charrues. Qu'est-ce qu'ils vous disent les spectateurs, les gens, que c'est si bon, et pourquoi c'est si bon et si chargé de sens de vous réécouter aujourd'hui? Les gens vous le disent?
Ouais, on nous dit ça, on nous dit qu'on est content de nous revoir. Et ça, c'est surtout valable pour tous les anciens fans qui reviennent comme ça. Mais maintenant, ils viennent aussi avec leurs enfants, quoi. Mmh. Et sur les festivals cet été, c'est vrai qu'on a vu les anciens, mais on a vu aussi des publics qui n'étaient pas venus nous voir, nous, et qui nous découvraient aussi. On a eu vraiment des bons retours avec la jeune génération. C'est super plaisant, ça fait vraiment très plaisir.
Ça veut dire que la nouvelle génération, elle trouve en vous aussi quelque chose qui n'existe plus vraiment aujourd'hui?
Oui, il disait, c'est bien, vous jouez en vrai. On doit prendre ça.
C'est vrai. Alors, ça fait 17 ans qu'on vous entendait plus. C'était vraiment silence radio. Polo, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 17 ans?
On a glandé.
Voilà, ouais, on en est là.
C'est vrai. Non, mais on a tous fait un peu ce qu'on avait à faire. C'est-à-dire qu'on avait quand même presque 15 ans de Négresses Vertes derrière nous. Mmh.
On avait tous une bonne petite quarantaine d'années. Donc il y a eu des familles qui se sont construites hein, pendant ces 17 ans-là. Et, puis voilà, moi j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait pas mal de choses, des trucs assez marrants. Et puis voilà quoi, la vie... voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. De toute façon, on n'a pas quitté les planches.
Et une envie commune, alors, où il y en a un qui a appelé les autres en disant, bon, allez, maintenant, on y retourne. Maintenant.
Au bout de 17 ans, comment ça se passe?
Bon, on se voyait, on s'est jamais quitté de vue, de toute manière. On était en contact les uns avec les autres. Mais c'est vrai, comme il disait, après 15 ans, on avait tous des envies d'ailleurs, quand même. Et ces 15 années-là, elles ont servi à assouvir ces envies d'ailleurs pour chacun d'entre nous. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on se disait, bon, un de ces quatre, parce que bon, on est toujours resté potes, hein. On s'était pas vraiment laissé non plus, nous. On s'était dit, on va se faire une pause, mais en fait, la pause, elle s'est prolongée, quoi. Donc, voilà.
Donc, c'était en germe, quand vous avez pris chacun vos chemins, individuels.
On voulait pas faire non plus de...
C'était quand même sous-jacent qu'un jour, vous alliez vous retrouver pour jouer ensemble.
On voulait pas faire de retour, le retour pour le retour, quoi. Là, il y a eu l'idée de... C'est Michel, notre Mimi, le trompettiste, il a dit, oh, les gars, on a 30 ans de mela. Pour nous, ça a sonné comme une évidence de fêter ça, quoi. Parce que, vu d'où on vient, par où on est passé, d'avoir un album qui dure 30 ans, voilà, l'été, tous les étés, depuis 30 ans, tu l'entends à la radio, c'est juste incroyable pour des gens comme nous, quoi. Donc, on a dit, on va faire, ça se fête.
C'est l'album de Zobby Lamouche et c'est pas la mer à boire que c'est comme ça. Exactement. Que vous avez intitulé le livre. Alors, venons-en alors.
Bah oui, parce que
ce défi.
Les Négresses Vertes, c'est l'exception qui confirme la règle, un miracle de la scène musicale française. Alors, je resitue le contexte, hein, 1987, le rock est tout puissant, il est la culture jeune. Bon, il y a quand même quelques petits jeunes qui imitent des robots, font des acrobaties avec des casquettes à l'envers en scandant HIP, HOP, mais bon, ils sont en minorité. Quant à la house, elle paraît très très loin de chez nous, à Chicago, en Amérique. En France, la musique électronique, ce sont des concerts au château de Versailles, avec des shows tout illuminés. Une frange adulte et bourgeoise de la population. Non, la culture jeune chez nous, outre la variété internationale hein, qui se déverse sur les chaînes de télé musicales, la véritable culture jeune chez nous, celle qui fait bouger les clubs et les salles de concert, c'est la scène rock alternative, héritée des Berruriers Noirs, un rock très différent de celui des anglo-saxons, dérivé du punk, engagé, énervé, une spécificité française qui s'organise grâce à la dynamique des bars et des labels indépendants.
Il va sa vache qui pisse le qu'on n'a pas déconné les vieux. Il est là sous la pluie, il ne sait où aller. Il est là comme un con, il est plutôt paumé. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse. Il va de crotte en crotte, son destin est bien triste. C'est une vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit.
Les Négresses Vertes, c'est un peu un fourre-tout de toute la culture des quartiers nord de Paris des années 80, son métissé déglingué qui vient de la rue, du zinc, un truc manouche, cirque, punk oriental et chansons réalistes. Tout ça parlait très très loin de la scène électronique qui est en train de s'organiser en Angleterre, mais finalement pas tant que ça. Il y a un côté pub à la Pogues dans les Négresses Vertes. Elno est un peu un Shane McGowan qui aurait écouté Jacques Brel. Et puis il y a aussi cette Angleterre qui explore ses racines, le métissage dans sa musique. Les Jamaïcains, les Indiens, toute la diversité de la population du Royaume-Uni se fond dans une house music teintée de rock. Et c'est là que les destins convergent. Peter Murray, le producteur du groupe, va chercher un jeune londonien célèbre pour ses collaborations avec David Byrne des Talking Heads, Clive Martin, qui réalise leur premier album en 1988. Et puis aussi un jeune DJ, William Orbit, pour remixer Zobby Lamouche. Et bam, l'impossible arrive. Les Négresses Vertes ne sont plus des rockers bouffeurs de grenouilles, musiciens méprisés des roast beef, ils deviennent un groupe branché de world music. Les Négresses Vertes, Green Black Women en anglais, c'est l'événement français le plus important depuis la Deux Chevaux pour les Britons, raconte Jackie Berroyer dans le livre qui accompagne les 4 CD de chansons live et remix des Négresses Vertes, sorti sous le titre « C'est pas la mer à boire ». Car oui, à l'époque, la France, c'est ça, les Deux Chevaux, Sacha Distel et le Minitel, le kitsch ringard. On ne traverse pas la Manche en 2 heures de train, non, on rame en ferry pour faire connaître ses chansons. Les Négresses Vertes vont changer tout ça. Bon, alors, je vais pas vous faire faire toute la biographie du groupe, hein, faudrait au moins une heure pour bien faire. Non, juste rappeler qu'ils sont précurseurs de tant de choses. Ils sont mixtes, ils sont métissés, ils sont modernes, ils sont expérimentaux, ils sont internationaux, ils sont indépendants, hors format, dramatiquement rock et joyeusement fanfaron.
Va-t'en chercher du bois, va-t'en chercher du bois, va-t'en chercher du bois qui est là-bas juste derrière chez moi. Va-t'en chercher du bois, va-t'en chercher du bois.
N'importe quoi cette chanson. Enfin, c'est finalement... Enfin, c'est finalement en peu de morceaux que les Négresses Vertes ont ouvert toutes sortes d'horizons à la musique française. Arrachés en plein vol par le deuil, ils sont un patrimoine qui fête ses 30 ans et qui pourtant reste encore méconnu par plein d'aspects, écrasé par les tubes. Un résumé sommaire de tout ce qu'ils savaient inventer, ça vaut le coup de se replonger dans les clips, les titres dub, l'énergie des concerts, la richesse du collectif, la qualité de recherche des sonorités. Bref, un coffret, c'était pas trop.
Il a toujours tout. Dernier de la classe, il lève dissipé. Mais que font ses parents? Un élevage de morpions. Ils en ont une tribu plus nombreux que les pions. Qui en sont dépourvus des jumeaux, des triplés. Et même des quadruplés. Bonne chance, mon professeur. Et mettez-y du cœur. Famille nombreuse, famille heureuse, quand on est frères et sœurs. Ah ah, c'est le bonheur, on a du cœur, quand on est frères et sœurs. Sylvia le reste de glace quand on vient l'aborder sur des problèmes de crasse, d'oral et délictés. Mais que font ses parents, les allocs familiales, ont préservé l'amour des parents de Sylvia, qui font sa nuit des jours, des jumeaux, des triplés, et même des quintuplés. Ils nous donnent des enfants qui viennent tous en chantant. Ils chantent. Ah, ah, famille nombreuse, famille heureuse. Sa sœur aînée, qui chope de la poitrine à force de redoubler. Mais qui sont ces enfants assis au fond de la classe? Ils sont une tripotée, le même nom, la même face. Et tous le doigt dans le nez, des jumeaux, des triplés, et même des quintuplés. C'est bien plus qu'une famille, voilà une escadrille.
Famille heureuse, famille heureuse, quand on est frère et sœur. Ah ah, c'est le bonheur.
Négresses Vertes dans ce coffret C'est pas la mer à boire, avec ce remix que vous avez choisi, un Mélanie Bauer. Remix de Norman Cook, Fatboy Slim ou Pizzaman comme vous voulez, Famille Heureuse.
Comme on veut.
Stéphane et Polo des Négresses Vertes sont avec nous. On va aborder ce premier sujet. C'est la colère qui prend un aller-retour généralement pour l'Eurostar. Parce que les pros et les anti-gilets jaunes se mettent sur la gueule par réseau interposé en France. Tandis qu'en Angleterre, les pros et les anti-Brexit
site plonge aussi le pays dans un climat d'hystérie. Alors au milieu des pros et des anti, il doit bien exister des Britanniques indécis. On les voit jamais, on les entend jamais ceux-là, alors ils disent quoi ?
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double.
Les Clash.
Dois-je rester ou dois-je partir?
Exactement. C'est shakespearien. Hein, être ou ne pas être, partir, rester. C'est les Clash, c'est Shakespeare. Alors, vous qui connaissez bien les Anglais, parce qu'on rappelle que vous avez quand même fait une bonne partie de votre carrière là-bas, ouais, vous avez démarré là-bas, on va y venir d'ailleurs. Est-ce que vous êtes capable de dire si un Anglais qui est très en pétard, il est très différent d'un Français très en colère?
Alors là, ça c'est difficile à dire, hein, mais je pense que peut-être que, vu qu'ils n'ont pas coupé la tête de leur roi, les Anglais...
leur reine.
Leur reine, ouais. Bah, non, c'est leur reine, pardon, pour moi. Peut-être qu'ils sont un peu moins virulents que le Français en colère.
Il y a peut-être une colère avec flegme.
Peut-être, avec plus froide.
Ouais. Vous regardez un petit peu l'évolution du Brexit,
ouais, d'un œil,
ce
d'un
genre
œil.
De choses, d'un œil vous gardez.
D'un œil, ouais. Sans mettre les lunettes.
Alors, je vais en venir, quand on ouvre ce livre, alors c'est paru chez Because Music, que vous dites vos disques, il y a un petit mot liminaire de Peter Murray.
Ouais.
Vous pouvez expliquer qui c'est ?
Peter, c'était notre premier producteur. Qui était la maison de disques Off the Track. Mm-hmm. Et c'est lui qui nous a signé en premier.
Il y a un petit mot, en 88, donc, il dit qu'il rencontre au cœur des puces de Saint-Ouen une bande de potes qui me bouleversent. Des mecs, des filles et un chien. Des gueules, une énergie, surtout une attitude. Je les aurais signés par pur instinct sans connaître leur musique. Et je comprends que ce groupe est unique quand j'écoute leurs chansons pour la première fois. La langue qu'ils chantent est certes le français, mais la France n'est pas prête pour cette originalité. Du punk acoustique avec un chanteur parolier digne de Gainsbourg. C'est donc vers la Grande-Bretagne que je mise et j'envoie tout ce beau monde en bus à Londres pour écumer les pubs et les clubs jusqu'au mythique Ronnie Scott. Donc c'est vraiment, alors c'est incroyable pour un groupe français de démarrer en Angleterre. Pouvez-vous nous raconter ces débuts quand vous débarquez avec vos instruments, ils vous envoient dans le bus, vous débarquez dans les pubs en Angleterre, qu'est-ce qui se passe?
Bah, ça se passe super bien. En France, c'était les négresses vertes, pourquoi pas les fromages blancs. Donc, en Angleterre, eux, ils ont pas ça. Ils voient pas les choses de la même manière.
Ah, déjà au départ, rien que le nom. Ah,
non, on a eu du mal au début en France, c'est sûr. Mais en Angleterre, non, les gens, ils ont eu une super réaction. Et en fait, il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas vu de groupe, contrairement à ce qu'on pense.
Ouais.
Dans les années, milieu des années 80, c'était surtout, principalement, c'était des couples ou alors c'était des petites machines. C'était pas mal ça quand même, c'était beaucoup les synthés, les trucs. Il n'y avait plus de gros groupes, on était nombreux, on était jusqu'à 11 sur scène, donc ça faisait quand même du monde. Et ça les a surpris. Et puis surtout, c'est qu'on faisait quelque chose, on fait toujours d'ailleurs, quelque chose qu'ils ne font pas eux. Et eux, ils sont pas, et eux, bon, bah, faire du rock'n'roll, c'est faire un peu la musique que font les Anglais, quoi. Que nous, on avait l'attitude, il y avait l'attitude rock'n'roll, mais la musique, c'était autre chose, c'était super française. Donc, ils ont aimé, quoi, ils ont forcément aimé, quoi. Et puis, la chaleur, puis tout le décorum, quoi, les tapis, les costards, le chien. ça leur a plu tout de suite, quoi.
Le côté latin, mais aussi très métissé, ouais. Ils étaient ouverts à la différence.
Les petits brins et tout partout.
Ouais. Et avec les négresses vertes, on va aborder avec Stéphane et Polo ces deux derniers sujets. Les premiers de cordée. Bon, ils se marient entre eux. Ça a toujours existé. Mais il existe des applications de rencontres qui amplifient ce phénomène en réservant l'accès aux très très gros revenus. Une appli pour que les riches se reproduisent entre eux. L'idée vient des États-Unis. Mais il y a qu'un mec qui sort d'une école de commerce pour inventer un truc pareil. C'est sûr, écoutez.
Dis pas que sur le campus, tu peux pas trouver juste...
Mais non, mais c'est pas ça, c'est que c'est l'effet pervers du marché. Les filles, elles calquent leur choix sur quoi ? Sur celui des autres investisseurs. Elles sont pas à la recherche d'un mec qui leur plaît, mais elles cherchent un mec qui plaira à la majorité d'entre elles. Donc ça veut dire qu'elles sécurisent leur investissement. Donc la demande augmente, et le prix augmente avec. Or, on est quoi ? On est comme sur le marché du luxe, le prix, c'est le signe de la qualité du produit. Ergo, la demande augmente avec le prix. Au final, quelques mecs baissent toujours plus, et nous, toujours moins, quoi. Enfin, Ouais, voire pas du tout, c'est vrai.
Un extrait de La Crème de la Crème, le film de Kim Chapiron. C'est un article qu'on a trouvé dans le magazine Les Échos et qui nous explique qu'il y a des applications de rencontres pour les très 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 hauts revenus. Il faut gagner genre 200 000 dollars par an. Et là, vous payez 100 euros par mois l'application. Ça sent quoi cette démarche de, entre riches, ils se sont toujours maqués entre eux, ok. Mais alors là, il y a des applis pour être bien sûr que ça matche plus facilement.
Oh, mais les pauvres aussi sont souvent entre eux. Donc
ouais, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
C'est la dématérialisation.
De la rencontre.
De la rencontre, ouais. Ouais. Bon, on n'a jamais mélangé trop non plus les torchons avec les serviettes. Hein, je veux dire.
C'est peut-être des gens insupportables, on n'a pas envie de les rencontrer.
Pas.
Peut-être, on sait pas.
Qui restent entre eux.
Ouais, ouais, ceux qui s'inscrivent sur l'appli, c'est sûr.
Et l'ascenseur social. On y pense à l'ascenseur social.
On aimerait bien, mais peut-être pas. Oui, c'est vrai. Si coucher, ça peut faire gagner 3 étages
et ouais.
D'un coup, pourquoi pas. Je voudrais.
Une démarche.
On sait pourquoi vous êtes au 6e.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais alors ça m'a aussi fait penser aux négresses vertes parce que c'est un plaidoyer pour le mélange. Comment vous vous êtes rencontrés déjà? Ça, c'est le contraire de l'appli. Quand vous formez les négresses vertes, vous croisez dans les rues, dans les bars.
On se croisait dans les concerts. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Ouais. On était. De toute façon, les négresses vertes, c'est un groupe de copains avant tout. Hein.
Mais il n'y avait pas c'est-à-dire une uniformité sociale, c'est-à-dire qu'il y en a qui venaient de certains milieux,
ouais,
d'autres.
Ouais, ouais, enfin, il n'y avait pas trop de riches. Hein,
ah, non, mais non, mais c'est la sous-question du truc, évidemment.
Il
n'y
avait pas trop de riches. Mais
on est quand même issus, quoi, de working class d'en bas.
Ouais.
Mais donc, bon, voilà.
Mais la rencontre, c'est ça, c'est le,
ouais,
c'est
ouais, fortuit,
c'est la passion commune de la musique, mais c'est, voilà, c'est les bars, les
c'est,
rues,
on,
ouais, c'est
un
certain
Paris. On a 20 ans et on se rencontre autour du milieu musical qui nous intéressait à l'époque. On avait tous des groupes, on était tous dans des groupes séparés, on se connaît, crac, on se voit, on s'apprécie, on est dans des groupes différents, et on guette l'occasion du jour où on va pouvoir se quitter nos anciens groupes pour se remettre ensemble tous là.
Ah oui.
C'est un peu ça qui est arrivé.
Ouais. Merci Stéphane et Polo. C'est le moment de Christine Gonzalez.
Vous m'emmerdez, hein. Je vous le dis franchement. J'ai une chronique à faire et au lieu de ça, vous m'obligez à réécrire votre lettre là. Bon, alors on commence par quoi, chers citoyens, chères citoyennes.
Français. Le chemin a été long. Le chemin a été difficile.
Le chemin a été difficile. C'est votre optimisme légendaire, ça, Georges Brassens. Hein.
Oui, bien sûr.
Vous voulez pas, avant de commencer, qu'on fasse un plan, comme ça on voit où on va?
J'ai mieux avoué tout de suite que je continue à ne pas faire de plan littéraire.
Oui, ça c'est votre manière de travailler, Colette, mais on pourrait faire efficace et léger.
J'ai mieux vous avouer tout de suite que je n'écris pas dans l'allégresse.
Bon, alors j'écris quoi? Je vous écoute. Hein.
Du piment.
Du piment.
Pimenté, n'est-ce pas? N'ayez pas peur de pimenter.
N'ayez pas peur de pimenter, d'accord. Vous voulez pas faire allusion à leur gouvernement, histoire que les Français se sentent soutenus par l'au-delà?
Oui, si vous voulez.
Bien, alors.
Vous avez créé un type. Et ça vous suivra pendant des années et des années comme une sorte de châtiment.
Oui, sorte de châtiment. D'accord, mais est-ce qu'on pourrait pas masquer votre fatalisme par une image un peu moins sombre, peut-être?
Oui, et ici je voudrais vous dire quelque chose qui légitime la vue de l'avenir.
Parfait, je note.
Où la chèvre est attachée.
Où la chèvre est attachée.
Il faut qu'elle broute.
Il faut qu'elle broute.
Non, c'est idiot, c'est du misérabilisme.
Qui c'est qui parle là maintenant?
Ah, très bon acteur.
Un bon acteur, Jean Marais?
Non.
Jean Gabin?
Non.
Gérard Philippe?
Ah non, dites donc, plaisantons pas.
Je vous reconnais maintenant, c'est Bernard Blier.
Oui, bien sûr.
Bon, alors vous dites que c'est misérabiliste, d'accord, mais on met quoi à la place?
Moi, je sais pas.
Bah, fallait pas nous interrompre pour rien, alors.
De toute façon, c'est pas à moi qu'il faut le demander.
Bon, Brassens, la suite, c'est quoi?
J'ai l'impression que nous sommes en train de faire de la haute philosophie, là. Je n'en suis pas capable, vous savez.
Bon, faut qu'on avance, là. Vous voulez pas aller me chercher un vrai philosophe?
Qui?
Je sais pas, aller chercher... Allez me chercher Sartre. Oui.
Votre
correspondant est actuellement occupé.
Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter.
Jean-Paul Sartre?
Oui.
Vos copains de l'au-delà veulent écrire une lettre aux Français. Ils ont besoin d'une phrase intelligente. Alors, il faut qu'on avance assez vite. L'heure tourne. Je vous écoute, je recopie, pondez un machin.
Nous ne pouvons être opprimés, exploités, mystifiés que parce que nous sommes libres. Les mythes dévient notre liberté Ils nous la font aller dans un, ils la font aller dans un autre sens que nous ne voulons. De sorte que ce que nous faisons en croyant que c'est librement, très souvent, c'est une chose qui est mystifiée par d'autres libertés.
Je comprends rien. Je comprends
pas. Pour vous donner l'exemple, ou le plus simple possible, quand un boxeur fait une feinte, son adversaire croit le frapper, par exemple, sur l'arcade sourcilière. En fait, il ne rencontre que le vide. Et il offre à celui qui a fait la feinte un corps désarmé sur lequel on peut frapper.
Je marque quoi alors? Tel le vide offert par la fin du boxeur, faites en sorte d'être libre.
Ben oui, si vous voulez.
Alors, boxeur, faites en sorte d'être libre. Voilà. Et on termine par quoi?
Monsieur, je vous présente mes respects.
Bon, non, Bernard Blier.
Pourquoi? Monsieur, je vous présente mes respects.
Non, mais
ça ne se dit plus.
Non, non, c'est nul, c'est nul. Puis ça exclut les femmes, et puis même madame, monsieur, mes respects, c'est nul. C'est nul.
C'est gentil, ça.
Ouais. un truc sobre, direct, mon général, une idée.
Vive la République. Ouais. Vive la France.
Vive la France. Ouais, c'est efficace. Bon, alors si on se résume. Française, français, le chemin a été long, le chemin a été difficile, du piment, n'ayez pas peur de pimenter. Vous avez créé un type et ça vous suivra des années et des années comme une sorte de châtiment. Mais n'oubliez pas, où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Tel le vide offert par la fin du boxeur, faites en sorte d'être libre. Vive la République, vive la France. Ça vous va?
Oh, oui.
Oui. Bon, alors, on envoie ça aux Français par mail, c'est écolo pas cher, on est d'accord?
Oui.
Oui, si vous voulez.
Oui.
Bon, ok. Envoyez.
C'était The Black Keys, Low, High. On poursuit avec un intellectuel suisse.
Il y en a un.
Mais enjoué, vous voyez, c'est intellectuel et c'est très enjoué. Écoutez-le, il est passionnant. Yves Citon.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter?
Faisons connaissance un peu avec vous. D'abord, vous êtes professeur de littérature et médias à Paris 8. Vous êtes souvent qualifié de penseur suisse. Non, mais c'est comme ça qu'on vous qualifie.
Les trois personnes qui parlent de moi comme penseur suisse. C'est un grand honneur.
Vous dirigez une revue politique, artistique et philosophique qui s'appelle Multitude. Vous avez été batteur dans un groupe de punk et vous avez présenté une émission de radio qui s'appelle Zazirocratie, qui mêle free jazz, indé rock ponctué de lecture philosophique. Vous êtes tellement Radio France, Yves Citon.
C'était Radio Campus Grenoble, pas Radio France encore. Vive Grenoble.
Donc c'est un mélange de FIP, culture, inter, si vous voulez. Alors vous publiez Contre-courant politique, paru chez Fayard dans la collection Raison de plus. C'est un essai contre le discours dominant qui prétend qu'il n'y a plus ni droite ni gauche. Vous dites que ce clivage, il est toujours bien là, que la gauche, elle existe, mais ce qui l'a tué, finalement, c'est la synthèse de tous ces courants, car elle est traversée de nombreux courants qui, finalement, existent en chacun de nous. On est tiraillés, les partis sont tiraillés, vous les répertoriez. Alors Yves Citon, qu'est-ce que cette cartographie que vous nous proposez, et est-ce qu'elle doit nous aider à nous orienter ?
Alors à la fois, je dirais à nous orienter, à nous désorienter ou réorienter. La gauche et la droite, on dit beaucoup que ça n'existe plus, etc. Moi, j'y crois pas du tout. Et pourtant, dans la gauche, il y a des gens qui me semblent dire des choses très intéressantes sur certains aspects, et les mêmes personnes disent des choses qui me semblent beaucoup moins attirantes pour moi. Et donc, parler en termes de courant plutôt qu'en termes de parti, essayer de nommer des polarités dans le livre. Donc, il y a une dizaine de polarités, comme les transparentistes, les opacistes, les accélérationnistes, les ralentistes.
Les terroristes et les désiristes.
Voilà, les terroristes. Terroristes. Et donc là, il me semble que ça permet à l'intérieur de la gauche de voir des tensions, des sortes de champs de tensions, des courants au sens de courants électriques, au sens où des polarités plus ou moins, on choisit pas l'une ou l'autre. L'électricité, c'est la tension entre ces polarités qui fait de la résistance, qui fait de l'électricité, qui fait de la lumière, qui fait du son, etc.
Mais est-ce que ça n'a pas toujours existé, mais c'était personnifié avant? Parce qu'on a, il y a beaucoup de mots en iste. Mais avant, on avait à droite les jupéistes, les sarkozistes, les fionnistes. À gauche, les hollandistes ou les valsistes. Avant, les courants étaient représentés par des personnalités.
Voilà, moi, j'aime pas trop les personnalités. Vous avez vu que je parle un petit peu d'individualisme. Je me méfie un petit peu de ceux qui croient qu'on est des individus souverains et que ceux qui votent pendant les élections, ce sont des individus souverains qui choisissent librement et de façon inconditionnée ce qu'ils votent ou ce qu'ils disent. Moi, il me semble qu'on est traversé justement par des courants médiatiques. Ce que je dis maintenant dans ce micro qui est en train de passer par les ondes ou par Internet, ça affecte les gens qui nous écoutent, qui sont dans leur voiture, qui sont en train de faire des choses, et que le résultat...
du bonhomme.
ça fait pleurer, ça fait rire, ça endort, ça peut faire plein de choses. Au volant, ça peut être très dangereux, mais ça affecte au sens où ça produit des affections et des affects, et je crois que lorsque tous les 5 ans, on fait un vote, c'est un petit peu le résultat de ce qui a circulé par tout ceci. C'est pour ça que je parle de médialistes, justement les gens qui essayent de penser la société à travers ce que les médias nous font, à travers ce que nous faisons à travers les médias.
Un exemple de tiraillement interne qui existe dans les partis, c'est « je veux ralentir, je suis ralentiste, mais j'écris un mail intitulé « urgent ». Et donc c'est cette partie de ces tiraillements entre deux pôles que vous expliquez. Vous dites aussi que les mots de la politique sont galvaudés. Quand on entend les politiques dire « il faut pour réformer, lutte contre le chômage, allègement de la fiscalité des entreprises. Vous dites que ça alimente un ras-le-bol et la colère qu'on connaît aussi en ce moment. Mais employer d'autres mots, c'est vraiment le début d'une solution ?
Alors le début, vraiment le tout début, ou une petite partie de la solution,
c'est
pas simplement.
C'est ce que vous proposez, c'est un prisme littéraire.
Voilà, parce que moi je suis littéraire, parce que moi c'est mon métier, ou ma petite compétence, s'il y en a une, c'est de réfléchir sur les mots. Donc moi j'essaye de proposer d'autres mots, et derrière ces mots il y a quand même des choses comme des idées. Mais c'est clair que ça suffit pas. Il me semble quand même qu'on est prisonnier de nos mots, lorsqu'on parle par exemple de chômage, lorsqu'on parle de dette des États, lorsqu'on parle de pouvoir d'achat. Hein, aujourd'hui on parle beaucoup de pouvoir d'achat avec le.
Mais le chômage, on va pas l'appeler courgette pour qu'ils disparaissent.
Bah, ça serait intéressant. Si chaque fois qu'un politicien dit chômage, il dit courgette, à mon avis, déjà, ça fera réfléchir un petit peu différemment. Et de parler de chômage, c'est à la fois, ça désigne quelque chose qui est douloureux. Il y a plein de gens qui sont au chômage et pour lesquels c'est douloureux. Et ça présuppose des choses sur l'emploi, sur le travail. Hein, le chômage, ça veut dire qu'on n'a pas d'emploi. On n'a pas d'emploi salarié. Et donc, c'est comme si on était sans travail. Pas du tout. Il y a plein de gens qui travaillent au chômage. Il y a plein de gens qui travaillent sans avoir de salaire. C'était les ménagères. On s'est battu pendant des années né dans le mouvement féministe pour dire que les ménagères travaillent même s'ils n'ont pas de salaire. Mm-hmm. Donc de dissocier l'emploi et le travail, c'est déjà essentiel. Et lorsqu'on parle de chômage, on s'emprisonne dans des catégories qui nous empêchent de trouver des solutions. Moi, avec Multitude, je suis pour le revenu universel. Et le revenu universel, c'est une façon, non pas de soulever, d'évacuer tous les problèmes, mais déjà qu'on parle très très différemment, qu'on ne parle plus vraiment de chômage comme on parle de chômage aujourd'hui. Il me semble qu'on est autant prisonnier du mot et de l'idée de chômage que de situation économique.
Vous repensez donc la gauche, mais votre éditrice chez Fayard, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Elle va bien ? Elle va bien ? Elle est redevenue bien de gauche ? Vous l'avez remise ?
Moi, je ne donne pas des certificats de gauchisme ou pas. Je suis reconnaissante parce qu'elle m'a invité à publier ce livre et qu'elle a soutenu.
Elle a retrouvé du boulot et ça, c'est bien. Ça, c'est bien.
Oui, parce qu'elle était en courgette à une époque.
Ex-ministre de l'éducation dans un gouvernement qui a été un peu le fossoyeur de la gauche, d'où la blagounette, bien sûr. En tout cas, c'est cette collection Raison de plus, contre-courant politique chez Fayard, car comme les partis, nous avons tous en nous des clivages internes, des courants. En voici un. La France est peut-être en train de faire éclore un parti des automobilistes, comme il en existe en Suisse ou en Allemagne. Les revendications des Gilets jaunes ne se résument pas qu'au prix du carburant, c'est vrai, mais leur vision politique est-elle conditionnée par le cadre de leur pare-brise et surtout par les embouteillages? Voyons.
C'est pas vrai, putain, mais tu l'avances tout gros cul, ça fait 50 ans que je suis là.
Quoi? Si t'es pas content, t'as qu'à doubler, pauvre naze.
Ouais, doubler pour aboutir avec une fille, je vais aller dans le ravin.
Putain, et mon pelon ta gueule.
Oh, non, tu vas la bouger ta caisse. Nous, on est en vacances, on est là pour t'étendre.
Et on est là pour prendre du plaisir. Merde.
Voilà les conséquences, bien sûr.
Il n'y a pas que des irénistes.
C'est un gars, une fille, Jean Dujardin, Alexandra Lamy. Alors, Yves Citon, quand on fait tous les jours le trajet maison, boulot, matin et soir, dans sa caisse, qu'on est sur le périph ou sur une départementale où ça n'avance pas, est-ce que ça conditionne une vision du monde? Est-ce que la bagnole crée un cadre de réflexion qui peut-être produit aujourd'hui ou va produire un parti des automobilistes?
Alors d'abord, comme vous l'avez dit, les partis des automobilistes, ça existe. Ça a existé en Suisse, ça a existé dans différents pays plutôt germaniques. Et moi, l'idée, c'était de se dire, des gens qui votent pour Trump, des gens peut-être qui ont voté pour Pujad dans certaines années ou qui se retrouvent maintenant avec des gilets jaunes, on pourrait dire qu'ils pensent, à partir de leur expérience d'automobile, qui est quoi? Qui est d'être isolé de l'extérieur, d'avoir des autres, un rapport aux autres qui est, comme le disait votre petite entrée, un con qui me bloque. Celui qui est devant moi, je me porterais mieux s'il n'était pas là, parce que j'irais plus vite et je serais plus vite chez moi. Et donc, il y a un certain rapport aux autres qui est conditionné par le fait de conduire une voiture, que j'ai moi aussi bien lorsque je conduis une voiture, qui, me semble-t-il, peut marquer ou peut exprimer une certaine position plus généralement politique. Et alors, le danger par rapport aux gilets jaunes, c'est justement de les identifier comme des automobilistes, de les réduire à ça, de dire ils se battent simplement contre la hausse du prix du carburant, alors que si on les écoute, on entend que c'est plutôt des questions d'inégalité sociale, c'est plutôt des questions d'injustice qui sont là. Donc moi, je fais le livre pour dire on est toujours tous un peu automobilistes, sauf peut-être des zadistes ou des gens qui fonctionnent qu'à vélo, mais la plupart d'entre nous, on est automobilistes du fait qu'on est dans ces conditions-là. Et l'autre pôle, c'est les médialistes qui, au contraire, reconnaissent qu'on a besoin de la médiation des autres pour faire tout ce qu'on fait et qu'on est tiraillé entre les deux. Quand je suis automobiliste, celui qui est devant moi, c'est un con qui me bloque.
Alors que
si je suis médiatiste, je me dis peut-être que le type devant moi, il va bosser, il va faire du pain et que je peux avoir mon pain le soir parce qu'il a été faire du pain et que s'il n'était pas là à me bloquer, il ne ferait pas de pain et que je n'aurais pas de pain le soir. Mais ces différentes attitudes qui sont les deux vraies, en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'il me bloque, puis c'est vrai qu'il fait du pain, c'est ces tiraillements-là que j'essaye de comprendre. Voilà. Qui tiraille la gauche, qui tiraille les gens qui m'intéressent, et que d'essayer de comprendre ces tiraillements, ça va peut-être nous aider à construire un autre vocabulaire politique.
Et c'est typiquement se dire, le gars qui est juste devant moi, mince, il va me prendre ma place de parking, pourvu qu'il apprenne pas, c'est ça. Voilà. Donc il devient quasiment un ennemi, alors que...
Lui, l'étranger,
le
les gens qui viennent chez nous,
exactement.
Qu'est-ce que c'est que les gens qui viennent chez nous?
Eh ben,
ils vont rajouter des bouchons, ils vont empirer les bouchons, donc on veut pas que des gens viennent chez nous. Et donc tout ça, c'est pas complètement idiot, et en même temps, il faut essayer de se positionner face à ceci.
Et pour terminer avec ce sujet, vous dites à un moment, les embouteillages et nos marchés du travail tendent à faire de chacun de nous un automobiliste frustré, parfaitement disposé à s'aligner derrière le premier conducteur venu, un petit fureur, vous dites, réclamant le renvoi de tous ceux qui sont tentés de me suivre de trop près sur les routes de la prospérité. Vous êtes d'accord avec Daniel Cohn-Bendit qui a dit qu'il y avait peut-être une tentation autoritaire des Gilets jaunes ?
Ça, c'est dur. Elle vous compte pas, comme Bendit, c'est une provocation.
Je sais pas. Moi, j'essaie justement pas d'interpréter trop fortement les gilets jaunes. J'essaie plutôt de nous mettre en garde contre des interprétations qui les réduisent à un manque d'intelligence, alors que je crois qu'il y a des problèmes, mais qu'il y a aussi une grande intelligence là-dedans et que c'est à nous de la faire émerger, parce qu'elle va pas forcément émerger tout seul.
Vous avez dit, on peut pas les limiter à pour la voiture et il faut les imaginer contre le néolibéralisme. Mais la voiture, c'est par excellence l'image du néolibéralisme. C'est le fordisme qui a voulu justement la consommation par l'ouvrier du produit qui créait. Donc c'est un peu étrange, ça.
Bah oui, c'est étrange et c'est contradictoire. Mmh. C'est ça, c'est que c'est contradictoire. Bah, c'est déjà contradictoire quand on est automobiliste de bloquer des carrefours, je m'excuse. Mais c'est quand même bizarre. Moi, je trouve ça tout à fait réjouissant.
Vous répondez par l'absurde, mais c'est pas
moi, j'ai pas une grande tendresse ni pour les automobiles ni pour les automobilistes. Et je trouve le fait que ce soit les automobilistes qui bloquent des carrefours, bah, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, voilà, ils se rendent compte eux-mêmes. Et alors, je crois que si on prend, si on dit pas les gilets jaunes, mais qu'on prend des gens, qu'on leur laisse un petit peu de temps de réfléchir et de parler, je crois pas qu'ils vont jouer à la Trump en disant il n'y a pas de souci de climat, il n'y a pas de souci, etc. Peut-être qu'ils trouvent, et que ce n'est pas idiot de trouver que payer des impôts sur la benzine pour eux qui ont des bas revenus, que ça serait, que ça soit difficile, mais qu'ils seraient tout à fait prêts à reconnaître qu'il faut faire quelque chose pour pas que ça s'empire au niveau climatique.
Et c'est le premier chapitre de votre ouvrage, Les automobilistes. Vous dites aussi que le capitalisme néolibéral obsédé d'austérité, eh bien son petit nom le plus familier pourrait être idolâtrie du bouchon. C'est dans Contre-courant politique paru chez Fayard avec beaucoup d'esprit. Allez, avant de parler d'un autre tiraillement de courant et notamment avec les solutions, peut-être les, comment on pourrait dire, l'alter-radicalité. Attention, ça donne envie de rester. C'est pour ça que je lance juste avant vous, Juliette Arnaud. Comme ça, on se dit, je vais écouter Juliette Arnaud et derrière, je vais savoir ce que c'est que l'alter-radicalité.
Oui, parce qu'en plus, moi, aujourd'hui, j'ai choisi un livre japonais en l'honneur de Carlos Ghosn.
Ouais.
Non, je déconne. Je l'ai choisi parce qu'il était écrit sur la couverture que l'auteur était la Simone de Beauvoir des lettres japonaises. Le livre s'appelle Les Dames de Kimoto. L'auteur s'appelle Sawako Ariyoshi. Le livre s'ouvre sur une grand-mère, Toyono, avec sa petite-fille qu'elle a élevée, qu'elle a préparée pour être la meilleure épouse possible. Et à la fin du livre, Anna, la petite-fille en question, est elle-même devenue grand-mère et veuve, et elle évalue son parcours. L'auteur écrit « Penchée sur son passé, Anna n'avait pas l'audace d'évaluer la part qu'elle avait prise au succès de son mari. Elle s'estimait simplement heureuse de l'avoir eue pour époux. » Et sans doute avoir été amoureuse de son beau-frère, moins ambitieux dans le sens plus plat ou convenu du terme, mais plus perspicace, plus fin, et qui, comme elle, lit des livres que son mari. Sans doute amoureuse, parce que ces choses-là ne sont ni dites par l'écrivaine, ni même seulement pensées de la sorte par Anna. Anna, elle, s'est juste appliquée à être la femme modèle dans la société japonaise de la fin du 19e siècle. Et où sont les femmes dans un système de famille patrilinéaire? Oui, c'est un mot que j'ai appris avec ce livre, j'en suis ravie. La famille patrilinéaire est un système de filiation dans lequel chacun relève du lignage du père. Ça signifie que la transmission par héritage de la propriété des noms de famille et des titres passe par le lignage exclusivement masculin. Bon, en gros, c'est au Japon, mais c'est chez nous, c'est chez tout le monde pendant très longtemps. Coucou Simone. Alors, je reformule, c'est comment être une femme? Alors, puisque où sont les femmes maintenant, on sait, c'est pas devant, pas à côté, c'est derrière, assez loin, somme toute, quasiment hors cadre. Alors c'est par exemple se concentrer sur son kimono à Anna, aux manches parfois si longues qu'elles peuvent aller jusqu'au sol, parce que savoir endosser ce vêtement fait partie de la bonne éducation d'une femme. Choisir avec grâce son hobby, qui est la ceinture de tissu plus ou moins large, qui est nouée avec suffisamment de raffinement pour maintenir en place le kimono. Enfin sérieusement Juliette, la vie d'une femme résumée à ce point de détail, c'est que voyez-vous, entrer dans ce livre équivaut à rentrer dans un tableau impressionniste. Même mieux, c'est être avec le peintre dès les premiers coups de pinceau et donc forcément ne pas comprendre où on va au début. Et on reste néanmoins. Pourquoi ? Mais ça, c'est le fin sortilège de ce roman. On accepte de n'avoir d'abord qu'une vue de détail sans saisir le motif qui tarde à venir, mais qui vient. Et quand il vient, le motif, alors on est comme ébloui, comme la première fois que l'on fait face au tableau de Monet. Impression, virgule, soleil levant. Vous savez, cette vue du Havre, ce n'est pas paysage qu'il l'a appelé, mais impression. C'est comme ça qu'il l'a intitulé. Alors le kimono, ce détail, prend toute son ampleur. Celui impeccable auquel se raccroche Anna lorsque son mariage ne fait pas que l'amuser. Celui que sa fille Fumio refuse de porter, préférant la robe des actrices du muet américain. C'est le début de la mondialisation, où le hobby se barre comme le corset s'est tiré. Celui qu'Anako, la petite fille d'Anna, elle réclamera, parce qu'elle cherche le lien avec le monde ancien de sa grand-mère. Un kimono superbe en crêpe de soie rose aux pivoines blanches, mais qui doit être échangé après-guerre contre du blé. Et Anako remarquera, il ne lui resterait plus rien en dehors de la trace dans sa mémoire des moments passés avec sa grand-mère. Alors toi, lecteur, tu repasses dans ta mémoire intime ce qui te vient de ta grand-mère sans forcément passer par ta mère. Quels objets disparus aujourd'hui incarnent ce lien ? Tu réalises comment par petites touches quasi impressionnistes, les femmes sont rentrées dans le cadre, dans le paysage, même si au départ ce n'était qu'une vague impression. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, on peut trouver cet ouvrage en livre de poche alors ?
Mais bien sûr, c'est chez Folio, ça coûte que dalle.
Super.
Les Dames de Kimoto, Sawako Ariyoshi.
Merci. Donc quand on a moins de 10 balles en poche, on peut le lire.
On peut lire un chef-d'œuvre de Madame Sartre, mais au Japon.
Merci beaucoup, Juliette. Abordons cet autre sujet, car l'Élysée ouvre ses portes aux médias pour justifier et expliquer la rénovation de la salle des fêtes, dont le coût s'élève à 600 000 euros, dont 300 000 euros de moquette. Alors, ça la fout mal parce que ça tombe pile pendant la crise, mais évidemment, c'était pas fait exprès. Donc, heureusement qu'on n'a pas découvert cette info dans le Canard enchaîné. Parce que là, ça aurait décuplé la colère ambiante. Un renouvellement de moquette en pleine crise. Ça, à Radio France, on est bien placé pour vous en parler. Comment ça se passe, cette rénovation, opération transparence, tiens, en ce moment ?
Non ! Non !
Non quoi ?
Vous peignez au parquet Louis XV en blanc.
Papa, on l'essuie. C'est de la peinture du mur, parce que ça s'est renversé par terre.
Mais pourquoi il n'est pas protégé avec des bâches, mon sol ?
À cause des courants d'air. Du coup, les bâches du sol, on les a mis aux fenêtres.
Les bâches du sol, elles sont aux fenêtres ? Et la peinture de mur, elle est au sol. Mais elles sont où, les fenêtres qui devraient être à la place des bâches ?
Elles sont avec les portes dans le jardin.
Mais pourquoi elles ne sont pas posées, mes portes et mes fenêtres ?
Avant, elles étaient posées dans l'escalier, mais comme on ne pouvait pas passer avec les matériaux, du coup, on les a posées dans le jardin. Mais vous ne faites pas de mouron, le gars qui vous les a livrées va vous les poser, vos portes et vos fenêtres, aux portes et aux fenêtres.
Et pourquoi il ne les a pas déjà posées ?
Parce qu'il a eu un petit accident, il s'est pris une porte.
C'est Laurent Gamelon dans La Maison du Bonheur, de et avec Danny Boone. Donc, Emmanuel Macron a eu le réflexe de dire, dès qu'on fait les travaux, on vous dit, venez voir, il y a la moquette à 300 000 euros, etc. On a changé les rideaux. La transparence, c'est devenu un courant ultra-majoritaire, au point que maintenant les politiques en font un réflexe.
Alors la transparence, c'est ambivalent. C'est comme ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur les voitures et sur le fait qu'on est pris entre des tiraillements de polarités différentes. Il y a la transparence qui, je dirais, vient du bas, qui me semble plutôt salutaire, à savoir de savoir comment on dépense notre argent, de savoir pourquoi on met une moquette là alors qu'on pourrait peut-être faire autre chose.
Ou les lanceurs d'alerte. C'est
ou les lanceurs d'alerte, voilà, exactement. Et après, il y a la transparence qui s'impose de haut, et là qui devient beaucoup plus vite ambigu. Le prochain numéro de Multitude, d'ailleurs, sera ça, on va l'appeler tyrannie de la transparence, pas du tout pour dire que c'est mauvais d'avoir de la transparence en soi, il y a plein de bonnes raisons, à commencer par les lanceurs d'alerte, merci, ils nous aident tous, et en même temps, cette espèce d'idée que tout devrait pouvoir se voir devient assez vite, me semble-t-il, inquisitorial, voire coûteux, parce que qu'est-ce que c'est que la bureaucratie, souvent, qui a son opacité propre, c'est d'essayer de rendre tout transparent. Pour le rendre transparent, il faut faire des papiers qui prouvent les choses, et les papiers qui prouvent les choses consomment de plus en plus de temps. Moi, je vois qu'à l'université, je passe de plus en plus mon temps à faire des tableaux Excel, à faire des comptabilités, à rendre des papiers, plutôt qu'à faire de la recherche.
Donc on peut être un peu pour l'opacité, c'est ça que ça veut dire.
Et voilà, il y a quelqu'un qui s'appelait Édouard Glissant, qui était un grand poète et un grand philosophe, et qui parlait de droit à l'opacité, et qui défendait ce droit à l'opacité comme un droit aux différences. Parce que si on rend tout transparent, ça veut dire qu'on part du principe qu'on peut tout évaluer avec un certain nombre de critères qui seraient consensuels, alors que qu'est-ce que c'est que les différences culturelles ? C'est d'avoir des critères, des sensibilités, des valeurs différentes, et que si on n'a pas ce droit à l'opacité, si on veut imposer de haut la transparence à tout le monde, on va imposer les mêmes normes, on va imposer les mêmes formulaires, on va imposer les mêmes appareils, on va tous devenir fonctionnaires d'appareils parfaitement homogénéisés, unifiés. Et là, c'est la fin de toute une série de choses auxquelles on tient en tant qu'humain et en tant qu'ayant des cultures diverses.
C'est vendredi, c'est précisément son jour, même si on a eu la chance de l'écouter toute la semaine avec le meilleur de ses chansons.
Alors, Frédéric Fromet est là, il était content parce qu'il adore les Négresses Vertes. À la fin même de la chanson, il y a une des Négresses Vertes qui est venue lui expliquer comment bien faire l'accord parce qu'il s'était compliqué la vie. Ouais. Mais la chanson est formidable, on l'écoute sur le procès des mouches.
Hey, vous me reconnaissez ? Mehdi, Mehdi, Némouche. Mehdi, Mehdi, Némouche. On m'appelle Mehdi. Oui, c'est moi, Némouche. Dans un musée, Bibi. Je vous l'accorde, c'est louche. Mais qu'est-ce qui m'a pris ? J'en tiens une sacrée couche. C'était pas écrit musée de la babouche. C'était pas le musée de la lapidation, de la charia ou du burkini. C'était pas le musée de la décapitation, de la fatwa ou du nazi. Mehdi Mehdine Mouche, Mehdi Mehdine Mouche. Pourquoi t'as fait ça? Ben parce que c'est comme ça, parce que c'est marqué dans le bouquin. Mehdi Mehdine Mouche, Mehdi Mehdine Mouche. Ouais. Chantons plutôt pour celles et ceux qui ne croient pas aux fake news. Voilà la thé, 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 voilà la thé. Voilà la thé qui n'a pas de Père Noël, qui ne gobe pas tous ses délires, qui n'agit pas selon un manuel. J'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà la thé qui regarde le ciel en n'y voyant que nuages au soleil. Pas l'ombre d'un grand manitou foireux, incompétent. Tous les dieux sont du vent. Voilà la thé, c'est pas du superflu contre les cubénus intolérants. Les calottes, l'équipa, les barbus, vive le mécréant. Religion, piège à con. Voilà la thé, 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 voilà la thé. Amen.
Merci. Hey, merci Frédéric Fromé. Stéphane Polo, une réaction?
On a les mêmes guitares. Super, ouais. On a la même marque à l'Ambra.
Ah, c'est vrai?
C'est la marque des bonnes guitares.
Merci beaucoup Frédéric Fromé pour ce bel hommage aux Dégraisses Vertes avec vos petites blagonnettes dessus. Vous le preniez mieux que Vladimir Cosma qui était un petit peu chafouin la semaine dernière. Ah ouais. Il a dit, ah, j'aime pas qu'on rigole avec ma musique, c'était raté, c'était trop tard. Voilà, c'est la fin des vacances de l'humour.
On aime bien de revenir quand même, bien sûr.
De l'humour, il y en aura encore lundi.
Bien sûr, on sera là. Dites-nous avec qui ce sera.
Eh bien, nous recevrons une astrophysicienne qui s'appelle Fatoumata Kébé. Ça s'annonce donc passionnant. D'autant que notre formidable équipe qui nous aide à préparer l'émission.
Citez-les, citez-les. Ils le méritent.
Ils vont revenir de vacances, ils vont être en pleine forme. Merci infiniment à Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Riveau, Ramzi avec un I, Assadi, assisté d'Emma Ferré à la préparation, à la réalisation. La merveilleuse Anne-Sophie Ladonne et à la technique les formidables Ludovic Aslo alias Ludovic, Alexandre Chenet et Stéphane Beaujat. Qu'ils soient tous remerciés, les belles équipes de France Inter.
À lundi.